Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
C'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour un nouveau journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, bonjour à tous les deux.
Et à la une, retour de week-end à rallonge bien compliqué.
Reprise des cours dans des écoles pas forcément climatisées. Vous allez voir, le ministère de l'Éducation appelle à fermer les volets si possible dans les salles de classe. Retour difficile aussi dans les trains, jusqu'à 12 heures de retard sur la ligne Paris-Sud-Est après des soucis en cascade hier. Et vous allez voir comment un banal différent sur le réseau social TikTok a certainement conduit au meurtre d'un jeune de 17 ans en Seine-et-Marne.
Et c'est donc dans des classes pas toujours climatisées que les enfants vont retourner à l'école ce matin.
Oui, alors l'année dernière, pendant l'épisode de canicule, souvenez-vous, fin juin, début juillet, on parlait quasiment tous les jours des écoles qui surchauffaient et qui n'étaient pas toujours adaptées aux fortes chaleurs. Eh bien, ça recommence, mais alors cette fois, au mois de mai, et rien n'a changé, un Rachel Sadodine est à Nantes, dans un des 8 départements en vigilance orange, et dans une école où parents et enseignants redoutent ce retour en classe par plus de 30 degrés.
Au fond d'une cour où l'on peine à trouver de l'ombre, un bâtiment à la façade quasi entièrement vitrée que nous ouvre cette enseignante préférant rester anonyme.
On arrive dans la salle qui est à l'étage, vraiment la salle où les élèves ont du mal à supporter la chaleur ainsi que leur enseignante.
Exposition plein sud, pas de volets extérieurs, aux fenêtres seulement des rideaux très fins. Résultat,
il n'y a pas d'air qui circule parce qu'elles ne peuvent pas faire vraiment de courant d'air, sachant que les fenêtres sont en oscillo-battant.
Si on va voir sur le thermomètre, il fait combien ?
Oh, j'imagine qu'il fait une trentaine de degrés et ça sans élèves. Ouais, 30.
Les enseignants réclament depuis plusieurs années des pare-soleils aux fenêtres, mais n'ont obtenu qu'un petit ventilateur. Alors, les parents, eux aussi, font ce qu'ils peuvent. Clément a quelques astuces pour rafraîchir sa fille de 10 ans, Juliette.
Des brumisateurs à emporter dans le cartable le matin, des bouteilles d'eau fraîche. On les envoie parce qu'on va pas non plus leur faire rater l'école, mais c'est vrai qu'on n'est pas très serein. Ils sont dans des classes de 28, c'est inquiétant, quoi, de laisser des enfants avec une telle chaleur toute la journée.
La chaleur touche aussi les collèges et lycées. D'après le SNES, syndicat du secondaire, 90% des établissements de Loire-Atlantique ne sont pas adaptés à ces épisodes de forte chaleur.
Alors, le retour de week-end de 3 jours a été beaucoup plus long que prévu sur la ligne TGV entre Paris et le sud-est de la France, puisque 2 trains sont tombés en panne. C'était hier après-midi au nord de Lyon à cause d'un défaut d'alimentation électrique. Ça, c'est un classique des fortes chaleurs qui a provoqué des retards allant quand même jusqu'à une demi-journée sur tous les autres trains de la ligne. Certains voyageurs sont arrivés seulement cette nuit, écoutez-les en gare de Marseille.
Ça fait 12 heures qu'on est dans le train, ça a été un enfer, vraiment. Je suis parti à 12h56, là il est 1h13.
Ils nous ont laissé enfermés pendant une heure et quart avec les enfants, à presque 50 degrés, la clim ne marchait plus.
Les gens commençaient à tourner de l'œil et à dire qu'ils se sentaient très mal. Donc on a dû vraiment demander à ce qu'ils ouvrent les portes et qu'ils nous laissent sortir parce qu'on était vraiment au bord du malaise.
On a passé plus de temps à l'extérieur du train qu'à l'intérieur, quoi, pour arriver. 7 heures assis sur les cailloux, vous savez les cailloux qu'on voit sur les bords des rails. On était assis dessus. Là, ça va, on a survécu, on est content d'être arrivé, vous voyez.
Alors ce matin, c'est un effet boule de neige, il y a encore 1h30 de retard pour un train au départ de Marseille en direction de Paris. Et je vous signale aussi que la journée d'hier a encore été émaillée de noyades mortelles, 2 dans le Finistère et encore une en Seine-et-Marne, un jeune de 17 ans qui se baignait dans la Marne.
Alors comment est-ce que vous vous adaptez à cette vague de chaleur, que ce soit au boulot ou à l'école? Vous en parliez, Quentin Vinet, vous nous le dites, est-ce qu'on est prêt à faire face? Finalement c'est la question aussi, on vous attend au 32-16 ce matin.
2 adolescents de 15 et 16 ans sont en garde à vue depuis hier à Rennes dans l'enquête sur la mort du jeune garçon de 11 ans retrouvé mort ce dimanche après-midi sur les rives de la Vilaine avec, souvenez-vous, une serviette de bain nouée autour du cou. C'est sans doute, je vous le disais, un différent sur le réseau social TikTok, motif futile donc, qui serait à l'origine du meurtre d'un jeune homme de 17 ans en fin de semaine dernière en Seine-et-Marne. Pierre Bazin du service police-justice à RMC, un suspect a été mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation.
Oui, selon les enquêteurs, une amie de la victime aurait en effet refusé d'ajouter l'adolescent suspect sur le réseau social et cela aurait alors donné lieu à plusieurs appels téléphoniques tendus entre le mis en cause et la victime, tous deux âgés de 17 ans. Et c'est finalement dans un camping de Seine-et-Marne que les adolescents décident de se retrouver le soir même pour en découdre. Le suspect, armé d'un couteau et accompagné d'un complice, retrouve la victime et 2 autres jeunes femmes. Très rapidement, les premiers coups pleuvent. Selon le procureur de la République, la victime reçoit plusieurs coups de poing avant d'être poignardée au niveau du thorax. Interpellé et placé en garde à vue, l'adolescent suspect a reconnu avoir porté un coup de couteau dans un accès de colère, mais il nie avoir eu l'intention de tuer la victime. Le parquet précise enfin que le mineur, mis en cause, est déjà connu de la justice pour des faits de violence et de port d'armes.
Nouvelle baisse des prix du pétrole en recul de 5% cette nuit sur les marchés malgré de nouvelles frappes américaines cette nuit dans le sud de l'Iran en pleine négociation. Tiens, l'Iran qui délocalise son camp de base pour la Coupe du Monde de football, c'est confirmé depuis hier soir. Les Iraniens établiront leur QG au Mexique plutôt qu'aux États-Unis, David Alias.
Exit Tucson dans l'Arizona, l'Iran va poser ses valises au Mexique, dans la ville de Tijuana, au nord-ouest du pays, juste à la frontière avec les États-Unis. Confronté à des problèmes de visa, le président de la Fédération iranienne de football avait demandé à délocaliser son camp de base en terre mexicaine. Une décision validée par la FIFA et saluée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum en conférence de presse. Ce compromis permet à l'Iran de ne se rendre aux États-Unis que pour disputer ses matchs. Les deux premiers à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Le troisième à Seattle contre l'Égypte. Les Iraniens fouleront donc le sol californien pour la première fois, la veille de leur entrée en lice dans la compétition, programmée le 15 juin prochain.
Toulouse risque une très grosse sanction en rugby. Le club toulousain est convoqué aujourd'hui devant la commission de discipline pour ne pas avoir respecté les règles du plafond salarial en dissimulant des contrats à ces dernières saisons, Wilfried Templier.
Oui, on évoque une sanction financière colossale à venir. Une amende avoisinant les 5 millions d'euros, ce qui représente quasiment 10% du budget du club. En cause, des contrats d'image portant sur plusieurs années, notamment entre le joueur international Anthony Jelonche et un sponsor du club, la société aéroportuaire 3S Alizia, dont les montants auraient dû être inclus dans la masse salariale qui est encadrée au rugby. Les instances reprochent aussi aux dirigeants toulousains d'avoir déclaré tardivement des primes pour le dernier titre de champion de France, et ces manquements s'ajoutent à une première amende de 1,3 million d'euros infligée l'an passé dans le cadre du transfert de l'arrière Melvin Jaminet, dont le montage avait déjà permis un contournement. Le stade toulousain pourrait donc se retrouver en état de récidive.
Bon, et puis une page s'est tournée hier soir à Roland-Garros avec la défaite de Gaël Monfils, battu en 5-7 par un autre Français, Hugo Gaston, pour son dernier Roland-Garros à 39 ans. Bilan de la journée d'hier, 5 est meilleur que celui de la veille. 4 Français qualifiés sur les 9 qui étaient engagés. Il faut dire qu'il y avait 2 confrontations franco-françaises.
Le Quintet à Vincennes, c'est aujourd'hui, il y a des confrontations franco-françaises.
13h50, le 8 et le 14, des pronostics de la Dream Team. Le 8 en favori, Lolistar, et le 14 en outsider, Lyra Potry. Ah,
mais pour le Quintet, je ne sais pas, mais sinon pour le tennis, parce qu'il n'y a pas que les Français à Roland-Garros, bien sûr.
Bien sûr.
Et la radio digitale 100% terre battue.
Les premiers matchs à partir de 11h.
Exactement, évidemment. Vous ne manquez rien. De toute façon, avec RMC, vous n'avez aucune excuse. Si tu es au courant du match, bah ouais, 100% terre battue. Il est 6h37.